Voilà.
Je suis ravie d'être notre compagne.
Voilà, on vient de la régie pour la première fois.
Ouais. Ben, c'est un grand honneur.
Oh bah si vous voulez, faites un test jusqu'au bout.
D'accord.
Non mais en plus c'est entre nous. Moi j'aime bien parce que ça me permet après, en me revoyant, ça me fait vraiment du ça fait du. J'ai que ça. Surtout crever comme dessus, je veux voir si c'est la catastrophe.
Excusez-moi, on va reprendre parce qu'on est vraiment en retard. Et après on va avoir du mal.
Oui, même directrice.
Alors, on va reprendre. Donc, je vais passer la parole à Marita, qui est directrice de recherche du CNRS à l'ENS.
Au CNRS.
Au CNRS, à l'ENS de Paris. Et on lui a demandé de venir parce que Marie faisait partie du groupe qui était à l'origine. De la pétition du boycott Elsevier avec donc Tim Gohl. J'arriverai jamais à le dire. J'ai un problème avec les noms. Elle le dira mieux que moi. Voilà. Et on lui a demandé de revenir un peu sur cette aventure, ce qui a poussé les chercheurs un petit peu à lancer ce mouvement et qu'est-ce qu'ils vont faire après. Enfin, elle va nous parler de tout ça. Donc, je vais laisser la parole.
Bon ben Nathalie, merci, hein, vraiment un grand merci pour cette invitation et aussi pour tout le travail que Nathalie fait depuis des années là-dessus. Voilà, l'aide qu'elle m'a apportée, parce que voilà, un des problèmes qu'on a les chercheurs, en tout cas, bon, moi je suis dans un labo qui n'est pas un labo de maths, c'est-à-dire que ça fait partie de l'interdisciplinarité au CNRS, je suis matheuse, non je suis un peu les deux, j'ai une thèse en physique et une thèse en maths, mais disons je me considère quand même comme utilisant beaucoup les maths, mais dans mon labo, c'est pas un labo de maths. Donc, quelqu'un comme Nathalie est très important parce que ça permet d'avoir le lien. Moi, je n'avais pas de lien avec les bibliothécaires jusqu'à présent. Et c'est grâce au CIRM et grâce à Nathalie. Donc, Nathalie, merci encore de ta confiance et de ton invitation. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé pour vous un site web. Alors, ce site existait déjà, mais cette nuit, je l'ai mis à jour. Vous voyez, 22 mai 2013. Avec pas mal d'informations, c'est-à-dire que c'est plutôt, j'ai fait une sorte de base d'éléments sur lesquels vous pourrez après aller regarder. Je vais simplement vous présenter ce site avec le contenu et ça vous donnera quand même une idée peut-être un peu d'ensemble. Alors l'adresse du site c'est là-bas, boycott Elsevier. Alors ce site, faites attention, vous ne le trouvez pas par Google. Pourquoi ? Parce que j'ai mis naturellement plein de choses qui ont des droits d'auteur sur ce site. Et en particulier dans Newspaper, je vous l'ouvre tout de suite Newspaper, j'ai mis toute une série d'articles, dont des articles absolument... Ah zut, ça y est, c'est parti. Bon, je savais qu'il y aurait des problèmes de ce genre. Je suis allée trop vite. Nathalie, comment je ressors de ça ? J'ai voulu utiliser... Bon, on a essayé de mettre mon ordinateur sur le site ici. Ah oui, pardon, j'ai pas... Je n'ai pas fait l'essai. Voilà. Donc, là-dessus, vous avez énormément d'articles liés au boycott. Simplement, ces articles, j'ai mis les articles qui appartiennent au Monde, au New York Times, à The Economist, etc. Et vous voyez, et ils sont classés par ordre, par date. Je reviens en arrière parce que je voulais revenir en arrière, un petit peu l'historique de la chose. Alors, ce qui se passe... Merci. Ce qui se passe, c'est comment j'ai été entraînée dans tout ça, c'est par un hasard. On m'a nommée au comité d'éthique du CNRS, je ne sais plus, en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Et bon, je n'étais pas hyper enthousiaste, mais comme j'étais nommée, je n'ai rien eu à dire. Et surtout, comme c'était Jean-Pierre Bourguignon à l'époque qui était le président du COMETS, j'étais très en confiance et j'ai dit oui. Mais je me souviens très bien à ce moment-là, j'ai donné comme condition, je disais, je reste 6 mois, et si au bout de 6 mois, je vois que c'est des discussions qui ne servent vraiment à rien, c'est vraiment non. Et très peu de temps après, en 2008, j'ai une collègue qui est à l'école de physique chimie, qui s'appelle Laurette Tuckerman, qui m'a signalé un problème gravissime. Je ne connaissais absolument rien, je suis le chercheur type qui, comme on le disait ce matin, signe tout ce qu'on lui demande de signer parce qu'on veut publier très vite et on veut surtout pas réfléchir à ça, on n'a pas le temps, on est la tête dans le guidon et toutes ces questions matérielles, financières, etc., on n'est pas du tout au courant. Mais en 2008, Laurette me signale le problème suivant, qu'elle, elle est dans un labo à l'école de physique-chimie, elle est chercheur CNRS et elle n'a plus accès à toutes les revues d'Elsevier. Or, le CNRS a signé le contrat avec Elsevier, vous le savez probablement, pour 4 millions d'euros par an, et elle, chercheur CNRS à physique-chimie, tous ses accès aux revues Elsevier sont coupés. Et elle me signale ça. Et donc je fais une enquête, et l'histoire c'était tout simplement que Elsevier est venue demander au CNRS la liste des chercheurs CNRS qui sont physiquement sur le campus de physique chimie, parce que la bibliothèque de l'ESPCI ne pouvait plus financer l'abonnement à Elsevier et donc n'avait pas signé le contrat en 2008. Et Elsevier a eu le culot d'aller demander au CNRS la liste des chercheurs, et beaucoup plus grave, le CNRS a donné cette liste. Donc là, je me suis dit, ah, là, effectivement, on peut peut-être, ça relève du CNRS et on peut peut-être agir en interne au CNRS. Oui, ce que j'avais dit à Jean-Pierre, j'avais dit, je ne m'intéresserai qu'à des choses où on peut agir en interne au CNRS. Et là, c'était le bon, à mon avis, c'était le bon exemple. Donc, alors, je propose au comité d'éthique ce qu'on appelle une autosaisine. Laurette est venue faire un exposé, je pense, en 2009 devant le comité d'éthique, absolument remarquable, où elle pose le problème. Et après, j'ai voulu prendre beaucoup, beaucoup de temps pour faire ça, parce que je n'y connaissais rien. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce stade? Donc, là, j'ai mis sur cette... Donc ça, c'est un ensemble de pages. Et je vais d'abord à celle-ci, sur la page ici. Vous avez avis du CNRS. Mais je voulais vous montrer aussi, dans l'avis du CNRS, il y a la bibliographie qui m'a servi à faire cet avis. Et franchement, dans cette bibliographie, il y a des perles. Une des perles, par exemple, c'est ce rapport de Morgan Stanley, donc les investisseurs, qui, en 2002, expliquait tout le système des publications scientifiques. Ils expliquaient comment ces chercheurs sont vraiment idiots. Vous pouvez les plumer autant que vous voulez. Allez-y. Voilà. Et quand j'ai rédigé l'avis qui est finalement sorti en juin 2011... l'analyse que j'en faisais, c'est que tout a basculé en gros au début de vers l'an 2000, quand justement les investisseurs se sont rendus compte que le marché de l'édition scientifique, il y avait du profit à faire. Aussi bêtement que ça, parce que le modèle, vous le connaissez très bien, c'est très simple, les auteurs travaillent gratuitement, ils réfèrent gratuitement, ils sont éditeurs gratuitement, et après, on demande de signer le copyright agreement, et à ce moment-là, les auteurs donnent tous leurs droits. Donc la possession légale des articles, et quand on dit possession légale, c'est le texte, les figures et les tables de données, et maintenant ils aimeraient bien avoir même les bases de données elles-mêmes, c'est-à-dire que la nouvelle stratégie des éditeurs, vous la connaissez probablement, c'est de lier les bases de données aux articles, ce qui est une très bonne chose pour des raisons scientifiques, c'est très très bien de faire ça, mais leur stratégie c'est aussi d'avoir la main sur les données, et ça va pas du tout. Donc là, en gros, j'ai découvert cette espèce de peau rose qui était un peu choquant, même très choquant. Et ma réaction, ça a été de me dire, mais c'est un problème légal. Bon, c'est bien, on va dire que c'est ma réaction personnelle. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce stade? Je suis allée voir, donc voilà l'avis. Je suis allée voir, les premières personnes que je suis allée voir, c'était très logique, c'est d'aller voir la cellule juridique du CNRS, la DAJ. Alors, vous avez ça en annexe. Tout ça, c'est les annexes du rapport. Voilà. Je vais voir les gens de la DAJ et je leur apporte toute une série de ces fameux... Alors, madame qui a parlé précédemment appelle ça des contrats. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit des contrats. Hein. Alors, en tout cas, je suis arrivée avec ces feuilles parce que c'est simplement des PDF. Et puis, vous l'imprimez, vous signez, vous renvoyez ça. J'en avais une petite dizaine. Je vais voir les gens de la DAJ. Il y avait 3 femmes à cette époque-là. Et je leur montre ça, ils me disent, non, nous, on n'y connaît absolument rien. Ah non, 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 ça ne nous regarde pas. Nous, on est spécialistes de brevets, mais le copyright, ça vous appartient en propre, effectivement, loi d'AFSI. Donc, le CNRS n'a rien à voir et ne sait pas faire. Alors là, j'étais la douche froide. Donc, j'ai pris un juriste, spécialiste de droit d'auteur, qui m'a conseillé. Et j'ai recommencé avec tous mes copyrights, mon exemple. Et lui, il a étudié la question. Et la question est assez complexe d'un point de vue juridique, parce qu'il n'existe pas de droit international encore en la matière. Et il y a une quasi-incompatibilité, c'est des traditions différentes entre le copyright anglo-américain et le droit d'auteur à la française, plus d'autres législations qui ont suivi. Et ce n'est absolument pas la même chose. En tout cas, ce que m'a dit ce lawyer, il m'a dit, quand vous signez ce copyright agreement, sa valeur en droit américain, or la plupart des revues dans lesquelles on publie sont des revues de droit américain ou en anglais, mais par contre, en droit français, ça n'a pas de valeur. Et vous verrez, dans le... Bon, ça, il faut lire l'ensemble du texte du truc. Je montre, en suivant son conseil, que si on est poursuivi, c'est une question qui s'est posée là tout à l'heure, parce que ce que je fais personnellement, systématiquement, et depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis aussi longtemps que j'ai créé un site web sur lequel j'ai tous mes articles, enfin, j'ai mon site web personnel, et je mets tous mes articles et je mets la version publiée. Parce que je considère que c'est très important que la pagination soit la bonne. Ce que je trouve désagréable dans le système des repositories, c'est qu'il y a plusieurs versions en circulation, et on ne sait jamais très très bien qui est celle de référence. La publication, c'est rendre publique, et il y a une version qui doit être la version de référence. Et de mon point de vue, c'est la version publiée. Donc je mets systématiquement la version publiée sur mon site, et donc je suis en défaut par rapport au fait que j'ai signé le copyright. Mais ce juriste m'a montré que, effectivement, je peux être poursuivi par le journal, surtout en droit américain, auquel cas je suis incapable de me défendre, il faut faire la preuve, soit il faut prendre un lawyer, etc. Je suis condamné en droit américain, mais s'ils veulent mettre en application la condamnation, ils doivent venir me chercher en France, et là, aucun problème, je prends un lawyer français, et en droit français... Le texte que j'ai signé, je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qu'il m'a dit, n'a pas de valeur en droit français, au sens du droit d'auteur, et dans ce cas, je peux les poursuivre pour contrefaçon. Voilà, et c'est comme ça qu'on continue la bataille. Alors, tout ça, je l'explique dans le rapport au comité d'éthique, parce que j'essaie de mettre un peu... Bon, c'était ça le but. Le comité d'éthique, son rôle, c'est de conseiller les directions du CNRS, et j'ai essayé de mettre un peu le CNRS devant le problème suivant. Vous nous poussez à publier un maximum par le seul fait qu'on est évalué sur nos articles, et c'est tout à fait normal que ce soit comme ça, mais vu le système actuel de la publication, juste une petite pression par rapport à votre exposé précédent, que j'ai beaucoup aimé, hein, beaucoup aimé, mais je me limite aux « peer-reviewed journals ». Or, je pense que la notion de contrat, c'est plutôt quand on a un livre. Alors là, on parle de tout à fait autre chose, quand on fait un textbook. Mais dans les peer-reviewed journals, on ne signe que cette petite feuille de papier qui s'appelle Copyright Agreement, qui n'est pas un contrat. Eux-mêmes ne le signent pas. On n'a jamais de contre... C'est pas... Bon, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. En tous les cas, à ce stade, je dis... vous verrez, ça, c'est l'argumentaire du texte. On est poussé à publier énormément, mais en publiant, on est obligé de donner son droit d'auteur, parce que de toute façon, c'est très simple, le comité éditorial a accepté votre article, mais si l'auteur ne signe pas le copyright agreement, l'article ne paraît pas. Fini. Donc le chercheur, lui, ce qu'il veut, c'est que son article soit publié. Donc il signe tout ce qu'on lui demande de signer. D'accord. Mais en signant ça, c'est à ce stade qu'il donne tous les droits à l'éditeur, et ce qui donne la force à l'éditeur ensuite de revendre au CNRS à prix d'or, parce que tout simplement, c'est eux qui possèdent maintenant les articles. Donc voilà. Et j'expliquais là-dedans qu'il y a une... Ça, c'est ce juriste qui m'a expliqué qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de nuire à son employeur. Première loi d'un employé, c'est de ne pas nuire à son employeur. Or, en signant les copyrights, je nuis au CNRS. Tout simplement. Parce que ça me permet ensuite qu'ils doivent racheter nos articles. Alors, autre chose que vous trouvez dans ce texte, j'avais à l'époque fait une proposition. Cette proposition va tomber à l'eau si on passe tout de suite à l'open access, parce que comme vous savez, l'open access, ça se fait sous forme de... L'auteur va garder tous ses droits dans la mesure où c'est Creative Commons License, BY, typiquement. Bon, je ne rentre pas dans les détails, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que le point que je mettais, parce que j'ai écrit ça en 2011... Donc en 2011, je parlais essentiellement des revues classiques sous abonnement. Et la proposition était la suivante. Vous savez que quand vous signez ce copyright agreement, il écrit en toute petite lettre que si vous êtes civil servant d'un pays du Commonwealth, vous n'avez pas à signer. Pourquoi ? Parce que le copyright ne vous appartient pas. Il appartient à la couronne d'Angleterre. Si vous êtes civil servant américain, il appartient à la Library of Congress. Vous n'avez pas signé, votre signature n'a pas de valeur, votre copyright ne vous appartient pas. Donc, en fait, dans le système actuel français d'AFSI, c'est parce que le copyright appartient au propre chercheur qui peut le donner. Et la proposition que j'avais faite là, dans ce texte, c'était qu'il faudrait créer une instance de droit. Ben, il faut que ce soit du droit européen, il faut que ce soit un niveau au-dessus de la France. Parce que quand vous savez qu'Elsevier, son chiffre d'affaires est supérieur au budget du CNRS, vous commencez à comprendre un peu le film. C'est-à-dire que si le CNRS décide quelque chose, ça peut faire rigoler Elsevier. Moi, j'ai un contrat avec Euratom. Euratom, c'est quand même gros, c'est la communauté européenne. Et Euratom nous demandait de ne pas donner nos copies, de ne pas signer de copyright. On a essayé de ne pas les signer, ben, l'article ne les paraissait pas. Et Euratom, ça ne leur fait pas peur. Donc l'idée, la proposition, c'était qu'on crée une instance de droit européen dans laquelle, sur la base volontaire, chaque chercheur donnait son copyright. Et après, dans cette instance, vous aviez... Ça jouerait le rôle de la couronne d'Angleterre, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, là, vous avez des très, très méchants juristes, et c'est eux qui négocient directement avec Elsevier, qui défendent les droits des auteurs. Et ça se fait sur la base volontaire, c'est même pas obligatoire, mais tous les auteurs qui prennent conscience de l'importance de ça... Voilà, et puis même, ça peut être très, très... Bon, donc tout ça, c'est dans ce texte. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, vous le trouvez sur Internet. Mais qu'est-ce qui donne, à mon avis, la partie la plus importante de ce texte? Je signale juste en passant ici... s'il faut que je vous signale tout de suite, ça c'est important, c'est un peu embarrassant. Ça c'est la version du 27 juin 2011 que j'ai proposée au comité d'éthique. Je l'ai rédigée tout seul pour différentes raisons, parce que le reste du comité d'éthique était très occupé avec d'autres saisines, entre autres liées à des saisines de la direction du CNRS. J'ai un peu travaillé dans mon coin là-dessus. Mais quand le 30 juin, il y a eu la réunion du comité d'éthique pour décider s'ils acceptaient ce texte, ils ont enlevé toute la partie sur confusion entre accès ouvert et accès libre. C'est-à-dire déjà à l'époque, on n'appelait pas ça Gold vraiment à l'époque, mais j'avais bien noté que du point de vue éthique, la publication à compte d'auteur est très, très dangereuse. Je veux dire, là c'est dit en toutes lettres. Malheureusement, dans la version que vous trouvez sur le site du Comet, ça n'y est pas. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'il n'y a aucune annexe. Or, les annexes, je pense que c'est ce qui a le plus d'intérêt. Je vous montre rapidement les annexes. Ah oui, alors, voilà, ça c'est l'autosaisine, ça c'est les gens qu'on a interviewés, ça c'est... Première annexe, voilà, ça, cette annexe, elle est remarquable. On avait interviewé... J'avais interviewé Jacques Laffey, qui a servi dans la négociation, que vous connaissez tous, naturellement, vous êtes couperin, lui représentait l'UPMC. Et Jacques Laffey me raconte les détails. Vous savez que l'UPMC avait refusé de signer le contrat, vous êtes naturellement au courant. Et il m'a raconté les détails de la négociation et les méthodes d'Elsevier. Elsevier ayant, à l'occasion, réessayé de contacter le CNRS en disant vous supprimez les accès aux chercheurs CNRS. Simplement, à l'époque, c'était Serge Bouin à la direction, à la DIST. Et Serge Bouin a dit à Elsevier, ben non, faites votre police tout seul, c'est pas moi qui vais vous donner les trucs. Donc Jacques Laffey raconte tout ça. Et il est très courageux, parce que comme vous savez, tout ça, normalement, c'est quand même des négociations secrètes. Et moi, je trouvais ça très intéressant, et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais éventuellement toi-même écrire le texte et le signer, parce que ça a beaucoup plus de valeur que si je reprenais, ça a plus de valeur. Et il a accepté de le faire, parce que vraiment, moi, j'admire, je trouve que c'est tout à fait remarquable ce qu'il a fait. Et ça a joué un rôle important. Parce que le hasard fait que je connais très bien Tim Gowers depuis longtemps, parce que je suis souvent à Cambridge. Et j'avais vu Tim, on s'est vu exactement le 12 janvier, et on a beaucoup discuté. À l'époque, vous savez, c'était toute la discussion sur SOPA, PIPA et le Research Works Act. Et là, je lui ai montré, je lui ai donné copie de l'avis là, pour le comité d'éthique. Et surtout, je lui ai montré le témoignage de Jacques Laffey. C'est le témoignage de Jacques qui a vu, mais Elsevier se comporte comme ça. Je veux dire, comme c'est des négociations secrètes, les chercheurs ne savent pas. Et là, ça, voilà. Et c'est le 21 janvier que sur son blog, il a mis qu'il voulait plus, qu'il a pris Elsevier dans le collimateur. Et alors, ce qui a joué un rôle absolument fondamental dans le démarrage du boycott, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou mieux, la petite étincelle qui met le feu à la plaine, parce que la plaine, elle est déjà très desséchée. C'est-à-dire, les chercheurs, on était tous énervés avec ça, mais on ne savait pas comment, par quel bout prendre le problème. Et donc, quand Tim... Alors là, vous avez le... Attendez, je remonte en arrière. Comment je ressors de là? Oups. Alors, il faut que je remonte tout en haut, pardon. Voilà, tout en haut. Ah non. Voilà, merci. Ah oui, c'est ce truc qui disparaît, d'accord. Alors, je remonte un cran en arrière. Maintenant, vous avez... Ah oui, là, si, une chose importante. Après, quand j'ai vu l'importance qu'avait le témoignage de Jacques, j'ai fait une version anglaise. Là, vous avez la traduction en anglais de que de l'annexe 3. Mais je vous rappelle, l'annexe 3, vous ne l'avez pas sur le site du COMETS. Il faut que vous preniez cette version-là. Alors, ensuite, donc... Alors, maintenant, je passe à blog. Sur blog, vous avez un ensemble de blogs, dont celui de Tim du 21 janvier. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est allé très, très vite? Ça, c'est Tim qui raconte ça. C'est que, en fait, les hackers ont joué un rôle important. C'est-à-dire, bon, son blog est remarquable, hein, vous le savez tous. Et c'est les hackers qui ont immédiatement diffusé ça un petit peu entre eux. Et c'est comme ça que, très vite, deux jours après, il y avait le site The Cost of Knowledge qui a été créé aux États-Unis et où les chercheurs ont commencé à remplir « je ne veux pas publier, je veux plus référer et je ne veux plus être éditeur ». Et chaque chercheur a le choix des options qu'il met. Et au bout de 8 jours, il y avait déjà plus de 2000 signatures. Donc ça, c'est grâce aux hackers qu'il y a eu ce... Bah, en tout cas, c'est tout ce que... Oui, ou les geeks, je ne sais pas comment on dit. Il y a tous ceux qui sont sur le web et qui réagissent très vite. Ah, mais je n'ai pas dit que c'était... Bah, ah, oh, il est illégal, le hacker. Bon, pardon. Non, dans ma tête, le hacker, c'est le jeune qui... D'accord. Bon, les geeks, alors. Pardon, je change moi. Mais Tim m'a dit hacker. Je suis sûre que c'est le mot qu'il avait employé. Et je reprends un là-dessus. Et l'autre groupe de personnes qui ont joué un rôle absolument remarquable, à mon avis, sans eux, on n'aurait pas eu le boycott, c'est les journalistes. Parce que les journalistes étaient déjà, ils avaient déjà bien compris le système. Il y a deux groupes qui ont joué un rôle, pardon, il y a un troisième groupe aussi que j'oublie. Ah oui, ça se trouve sur les blogs, je suis allée trop vite ici. Voilà, ça c'est un blog, regardez. Tim le met le 21 janvier. Ah oui, tout ça, c'est organisé par date. Vous voyez, 1, c'est janvier, etc., février. Et ça, c'est la chronologie, hein, c'est dans l'ordre. Je fais juste ici une toute petite remarque. J'ai mis exprès un échange que j'avais eu en 2007 sur le blog de Tim Govers. Et c'était déjà des idées. Tim avait déjà des idées des petits journaux. Regardez ça, il faut vraiment lire ce truc. C'est assez remarquable. C'est vraiment vieux. Bon, je reviens en arrière. Mais... Ça, oups, voilà, il va apparaître, très bien. Alors, qui sont les autres qui ont aussi joué un rôle? C'est les investisseurs. Première action, Forbes, les gens de la finance, qui, eux, étaient très au courant du problème. Et ils ont tout de suite compris le film quand ils ont vu le boycott qu'on a démarré. Et parmi les investisseurs, ils se donnaient les trucs du genre « Ah, les actions d'Elsevier baissent, il faut vite, vite racheter, parce que leur boycott ne va pas marcher ». Vous vous souvenez, les bibliothécaires, il y a eu plusieurs boycotts lancés par les bibliothécaires, Stanford, Cornell, etc. Malheureusement, le jour où les chercheurs, quelques semaines après le début du boycott des bibliothécaires, ils n'avaient pas accès aux revues, ils venaient rouspéter, et puis ça s'arrêtait. Donc là, les investisseurs ont tout de suite vu le problème, et ce qui est étonnant, c'est la façon dont ça a été relayé par les journalistes. Donc là, on arrive à cette page « Newspaper ». Donc ça, c'est dans l'ordre. Et c'est, donc, dès le 4 février, hein, c'est-à-dire à peu près 10 jours après le début du boycott, il y a eu déjà un article dans The Economist qui était... Vous lisez cet article, mais ils ont tout compris. Ils étaient prêts. Et ils finissent cet article par quelque chose comme ça. On ne pouvait pas nous faire une meilleure publicité. Publisher needs academics more than academics needs publisher. And incumbents often look invulnerable until they suddenly fall. Et là, il pensait à Elsevier. Beware then the academic spring. C'est The Economist qui a trouvé la formule de pub. Bon, nous, on n'a rien fait à ce stade. Ça s'est développé tout seul. Là, on n'en était qu'à 2000 signatures de... Et après, le relais, en particulier par un journal que je trouve absolument remarquable. Regardez la série des articles dans The Guardian. Ils sont vraiment formidables. Ensuite, qu'est-ce qui a joué un rôle? Là, ça, c'était important. Parce qu'au bout de une quinzaine de jours, là, on était début février, naturellement, Elsevier n'était pas content. Et Elsevier a commencé à dire « Mais tout ce qu'il raconte, c'est faux. » Mais non, mais... Parce que l'argument que donnait Tim, c'était en termes de prix. Mais comme les contrats sont secrets, Elsevier a beau jeu de dire « Mais non, mais les prix, mais non, c'est pas cher du tout. » Parce qu'ils vont trouver une bibliothèque avec qui ils font des tout petits prix. Puis, la notion de prix n'a pas de sens, en fait. et donc, vu la façon dont il négocie les trucs. Donc on s'est retrouvé un peu avec Elsevier, disant mais tout ce qu'il raconte c'est faux. Donc le groupe qui avait, après on était un petit noyau de gens, on a été obligé de faire une déclaration. Et cette déclaration, vous la connaissez, c'est la déclaration. Alors dans ça, c'est dans Declaration, c'est la déclaration qui s'appelle Cost of Knowledge qu'on a fait le 9 février, où là. Donc là, ça a été rédigé collectivement en 8 jours par Internet. On a rédigé le truc. Et les signataires, on est 34, et ce ne sont que des mathématiciens, mais de différents pays dans le monde. Alors naturellement, il y a plusieurs... il y a des Américains. Et pour moi, une personne dont la signature a été absolument essentielle, c'est Ingrid Daubechies. Parce qu'Ingrid est la présidente de l'International Mathematical Union. Et Ingrid, dès qu'elle a signé le boycott, c'était la veille qu'on le sorte, je me souviens, on a échangé des téléphones, des mails à ce moment-là, et elle a immédiatement démissionné du comité éditorial d'une revue qui s'appelle ACHA, Applied and Computational Harmonic Analysis, qui d'ailleurs a été conçue, je fais une toute petite parenthèse ici, l'idée d'ACHA a été conçue, la discussion de naissance d'ACHA a été faite au CIRM en 92. Et bon, tout ça, c'est mis dans un. Je l'explique un petit peu dans un. Vous regardez dans la Gazette des mathématiciens, il y a un petit article qu'on a écrit sur le rôle du CIRM par rapport à la naissance des ondelettes. Je répète une chose que. Vous voyez, la littérature que vous prenez en entrée du CIRM dit que les ondelettes ont été découvertes au CIRM. Ça, c'est faux. Donc, on a écrit un article pour préciser un petit peu ça. Par contre, la naissance de la revue ACHA a été faite par une discussion qui a eu lieu au CIRM. Et donc en 93, cette revue sort, mais chez Academic Press. En l'an 2000, Elsevier rachète tout Academic Press, et donc la revue qu'on a créée, alors le titre, c'est pas, il n'y a pas le titre Ondelettes dedans, mais c'est là que publie la communauté Ondelettes, a été rachetée par Elsevier. Et Ingrid, le moment où elle a signé cette pétition, elle a immédiatement démissionné. Elle était éditeur en chef, un des trois éditeurs en chef de la revue. Mais ce qui a été très fort, et ça pour moi c'est un des points essentiels du boycott, c'est que le lendemain, ou dès qu'elle a signé ça, je reviens à Newspaper, article dans le New York Times, où elle dit, interview d'Ingrid, où elle dit « En tant qu'éditeur en chef, je n'ai jamais été payée par Elsevier ». Eh bien ça fait toute la différence, parce que toute la logique d'Elsevier, c'est de faire croire que le peer reviewing, c'est eux. Et donc les investisseurs, les politiciens qui ne connaissent absolument pas l'édition scientifique, ils croient tout simplement que c'est grâce justement aux publishers, aux éditeurs, mais au sens maison d'édition, qui tiennent tout le système. Et c'est faux. Le système, c'est l'expertise des chercheurs extrêmement spécialisés qui font le peer reviewing à titre gratuit parce que c'est échange de bons procédés, étant donné que chaque mathématicien ou chaque chercheur, il est à la fois auteur et référé et éditeur quand on est éditeur. Donc tout ça, c'est fait à titre gratuit. Et ça, c'est le point essentiel. D'accord, je termine. Je vous montre très vite. Donc là, vous regardez les articles. Je vous montre très vite un truc que je vous ai rajouté hier soir. Voilà. Donc là, vous avez les différentes réponses d'Elsevier. Mais j'ai aussi rajouté ça. Amusez-vous à aller regarder Wikipédia. Ça, c'est pas triste. Ça, c'est une chose que j'ai découverte un jour par hasard. Parce que sur notre page Cost of Knowledge, on avait été très, très grand seigneur. On avait laissé Elsevier répondre. Voilà, parce que c'était normal. Et puis, un jour, je vais sur le Cost of Knowledge, je clique sur Elsevier. Après, j'arrive sur des pages d'Elsevier. En fait, ils se faisaient leur pub sur notre site. Et là, je découvre qu'il existe une page Wikipédia Elsevier. Et la page Wikipédia Elsevier, elle disait, je pense que je vais vous la trouver ici, je vais très vite, ça, c'est la page Wikipédia Elsevier à l'époque. Attendez, que je retrouve le passage. Voilà, alors lisez ça quand même, ça, c'est pas triste. Elsevier emploie plus de 7000 personnes dans 70 pays, dans 70 bureaux de 24 pays. En plus... nous avons, Elsevier a, 7000 éditeurs, 70 000 membres des comités éditoriaux, 300 000 référis, 600 000 auteurs pour ses publications. Alors, la petite truc entre parenthèses, c'est moi qui l'ai rajouté, vers le, je sais plus, 10 ou 12 février. Vous trouvez ça sur l'histoire de Wikipédia. Et là, j'avais rajouté « all of them, besides... bon, » okay. La plupart d'entre eux font ça de façon volontaire, sauf de rares exceptions, je m'étais couverte, sans être payée par Elsevier. Okay ? Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé ? Une demi-heure, une heure après, quelqu'un me l'a enlevé. Alors, je l'ai remis, quelqu'un me l'a enlevé. Alors après, je suis rentrée en dialogue avec ce quelqu'un. Je vous ai préparé ça hier soir, ça, cette nuit même. Regardez, 2h du matin, c'est pour ça que je ne suis pas très fraîche. Et là, j'ai mis la discussion que j'ai eue avec ce gars-là. Là, c'est tous les fois où je l'ai mis, il me l'a enlevé. Le gars, il a un nom codé, Guillaume2303. Et après, je me suis mis en dialogue avec lui, en lui disant « Mais pourquoi vous m'enlevez ? Moi, je sais ce que je dis. » Et il me disait « Mais non, votre truc, il n'est pas assez faux. Moi, je suis moi-même éditeur et je gagne tant d'argent. » Il explique. C'est un gars des neurosciences. Il dit 20 000 $, etc. Je ne rentre pas dans les détails, vous le lisez. Et puis, alors comme il me l'a enlevé, je n'ai rien pu faire. Mais par contre, grâce à quelqu'un qui m'a aidé, je suis arrivée à identifier la personne. Un mois plus tard, je savais qui c'était. C'est un Américain qui est chercheur dans un labo à Bordeaux en neurosciences, chercheur CNRS. Alors j'ai remis la phrase un jour et je l'ai eu au téléphone. Je l'appelais immédiatement et par chance je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit bon, j'ai remis la phrase. Hein, vous me l'enlevez plus là maintenant. Alors on a discuté une heure au téléphone et il m'a dit non, mais moi je suis désolée, vous n'avez aucune preuve. Il faut mettre une citation. Il faut dire. Et là, je lui ai dit, attendez, là, il y a quand même un petit problème. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que je n'ai pas d'article dit dans Wikipédia, il faut toujours être documenté, d'accord, c'est-à-dire mettre vos références. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette référence 1 ici, vous voyez ? Là, les 70 000, 300 000, tout ça, ça sort d'où ? Là, cette référence, c'est un truc qui s'appelle Elsevier at Glance. Alors, je dis au gars, écoutez, je suis désolé, là, ça, moi, je n'appelle pas ça une référence, c'est un article écrit par Elsevier, donc... Vous me l'enlevez. Et il a tout enlevé. Parce que lui, il était une des personnes qui s'occupe quand même du fait le modérateur sur Wikipédia. Donc maintenant, et là vous verrez la page maintenant, bon, je vais y aller là. Maintenant, ça je l'ai fait cette nuit, donc ça c'est la page d'aujourd'hui, Elsevier. Et bien regardez, c'est dommage, hein, moi je reconnais que c'est un peu dommage. Maintenant, c'est simplement qu'Elsevier emploie 7000 personnes. Donc on a perdu 1 million de personnes dans l'histoire. Voilà. Et donc, ça serait quand même plus fort de rajouter le million de personnes et en justifiant que ces personnes ne sont pas payées. Donc, il nous faut un article pour ça. Alors, dès le mois de février, en fait, j'étais allée voir Serge Boin au CNRS et je lui ai dit, écoute, quand même, on a toutes les instituts du CNRS, il suffit de faire une enquête au CNRS pour savoir communauté par communauté qui est payé, quelle est la pratique des comités éditoriaux. Bon, alors, il est débordé, on est tous débordés, vous le savez. Mais franchement, le jour où on a un article, il en suffit d'un, qui explique communauté par communauté quel est le modèle, qui est payé, etc., on peut rajouter, parce que la vérité, c'est que c'est quand même nous qui faisons l'essentiel du travail. Le peer reviewing, c'est le travail de qualité. Bon, alors, je vais conclure ici, juste quand même pour dire que le groupe The Cost of Knowledge, donc, on met plus les trucs publics, on a juste refait une déclaration au mois de janvier que vous avez aussi sur le site, là, hein. Vous l'avez dans les... Ah oui, ça, c'est tous les trucs que j'appelle declaration. J'ai aussi mis toutes les déclarations historiques, hein, ça, c'est important, les différentes bills, American Research... Oui, je ne vous ai pas dit, mais finalement, le Research Work Act, notre boycott, un des vraiment grands résultats du boycott, c'est qu'on a fait arrêter le Research Work Act. Ça, c'était quand même pas mal, le 27 février. Je ne rentre pas dans les détails, mais après, on est resté en discussion sur une adresse mail à nous, et pendant 6 mois, on a élaboré quel est le modèle de journal idéal pour nous. Ça, c'est Ingrid qui a lancé le truc. Et le modèle idéal qu'on a pour nous, mais ça, on en parlera probablement dans la discussion cet après-midi, le truc essentiel, c'est qu'il faut que le comité éditorial, en tant que groupe qui fait l'essentiel du travail de peer reviewing, ait une existence légale. Et que comme un collège, une structure légale, et que ce soit cette structure qui possède le titre de la revue. Ce qui leur permet après, si on n'est pas content avec un publisher, on s'en va. Nous, notre revue achat, on est bloqué, parce qu'on ne peut pas la récupérer d'Elsevier. C'est-à-dire, si on démissionne tous en bloc, immédiatement, Elsevier reprend, il y aura d'autres chercheurs qui feront l'éditorial board. Ingrid démissionne, je ne sais pas, vers le 9 février. 8 jours après, David Donneau a pris la suite. So what ? Donc ça, c'est des coups d'épée dans l'eau, là. Alors, de mon côté, je suis en grève. C'est-à-dire, depuis que j'ai signé le boycott, je refuse de faire mon travail d'éditeur. Mais je refuse aussi de démissionner. Et je crois aussi, ça, je l'ai mis cette nuit ici. C'est de la correspondance privée, mais tant pis, dans achat. Donc là, vous avez une lettre de David Donneau. Et ça, donc ça, non, David, je crois que c'est pas privé. Et ça c'est toute la discussion que j'ai avec achat en disant non, moi, je suis en grève, je veux pas démissionner, non, je suis désolé, non. Et l'idée, c'est que maintenant, je veux, en interne au comité éditorial, dire, mais quel est le contrat? C'est quoi notre situation légale? Et il n'y a pas de situation légale. C'est-à-dire, les gens, les éditeurs font le travail sans avoir aucun cadre légal. Voilà. Et ça, pour nous, c'est la priorité maintenant. C'est donner un cadre légal aux journaux en tant qu'entités qui font le peer review. Alors, je vais passer mon temps. Merci. Ouais. Droit de réponse.
Ouais. Ça existe déjà. Nous, par exemple, nous publions un journal qui s'appelle Astronomy and Astrophysics.
Oui, oui, je le connais.
C'est sans doute. Donc, nous n'avons pas le copyright. Hein, le copyright est ESO, European Science Observatory. Il y a un groupe de personnes, des représentants nationaux des journaux, des centres, des CNRS locaux des pays participants au journal, qui possèdent le journal. Hein, donc, il y a une. C'est sous-tendu par, une structure juridique qui était longue à mettre en place, qui n'existait pas vraiment, c'était une structure de fait. Hein, et donc l'ESO a fait un travail pour définir la nature de cette structure juridique. Et nous-mêmes, on subit des appels d'offres à tous les quelques années. Donc en 2001, on a pris le contrat à Springer. On a eu un autre appel d'offres en 2009 et on en a un l'an prochain. Donc à chaque fois...
Ça c'est ça, c'est la façon, c'est la bonne façon de fonctionner. Hein, ça.
Et à chaque fois, on doit montrer qu'en tant que prestataire de service et centre de compétences, on est meilleur. Voilà.
Mais ça c'est génial, c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Nous, on a absolument rien contre les éditeurs. On a au contraire, c'était formidable les éditeurs dans le temps. Il faut revenir à la relation qu'on avait avec Gauthier Villars ou des gens comme ça. On a tous connu cette époque-là. Le problème pour moi, c'est le jour où les financiers ont vu la poule aux œufs d'or et ils ont racheté tous les grands journaux. Et nous, on ne les a pas vus venir. Et vous, vous êtes de notre côté, c'est évident. Voilà. Parce que vous, comme vous êtes... Mais c'est évident, ça, c'est pour moi... Vous savez, on en a déjà discuté plusieurs fois ensemble. Nous-mêmes, les chercheurs, on veut à nouveau retrouver cette pluralité des éditeurs qui sont dans une concurrence saine. La concurrence saine, c'est vous offrez un service et nous, comité éditorial, on va au meilleur service. Et on est capable de changer, on n'est pas piégé comme dans la situation actuelle.
On n'aurait pas dû faire qu'une journée sur
le
je pense que toute la semaine va être mieux parce que là on va vraiment être en retard.
Bon, désolé. Je ferme ça peut-être.
Je suis Benoît.